Voilà, gloire à Dieu. C'est bien qu'on ait ces moments d'adoration, voyez. On partage avec Dieu, on le loue, on l'adore, on élève la voix. Et puis également, il nous parle. Et ce qui est formidable, c'est que, avec tout cela, il prépare nos cœurs. Il y a les chants, il y a les cantiques, hein. Puis il y a une louange qui monte, hop. Et puis au fur et à mesure, le prédicateur, il est conforté dans ce qu'il a préparé. Dieu est bon. Amen. Je vais vous parler de la fidélité de Dieu. Ce don spirituel, à la fin, formidable. Amen. Le premier chant, déjà le premier cantique, hein, qui montre que nous voulons être fidèles et le suivre jusqu'au bout. Eh bien, ça fait partie également du thème de ce matin. Lisons ensemble Deutéronome, chapitre 32, verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Le décor est planté. Amen. Moïse est celui qui prononce ces paroles, des paroles pleines d'espérance, bien sûr. La vie de Moïse a été marquée tout au long par la souffrance, le combat, l'exercice du cœur également, bien sûr. Il nous est dit qu'à peine entré dans ce monde, il nous est présenté comme un petit garçon qui pleure. Eh oui. Ce furent ensuite des souffrances à la cour de Pharaon durant la plus grande partie des 40 premières années de sa vie, car on ne peut pas douter qu'il ait souffert dans un tel milieu lorsque justement il voyait la souffrance du peuple d'Israël. Lorsqu'il regardait vers ses frères, il voyait leur détresse. Il est dit que Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses frères. C'est-à-dire que là, il tourne le dos aux richesses, à la gloire de l'Égypte. Il va vers ceux qui gémissent sous un joug terrible, celui de Pharaon. Ce peuple, dans la souffrance, c'est le peuple de Dieu. Et Moïse choisit, comme nous dit le texte, Hébreux 11, 25, d'être plutôt dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Mais Exode 2, versets 11 à 14, nous apprend quel accueil il va recevoir de la part de ceux dont il désirait partager la souffrance et surtout les secourir, les aider. Verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le jour suivant, voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Il nous dit que Moïse eut peur. Et il dit, certainement la chose est connue. Et combien, bien sûr, il a dû éprouver une grande souffrance dans son cœur, alors qu'il manifestait à l'égard de ses Hébreux, qui étaient ses frères, son peuple, tout simplement de l'amour. Un amour incompris. Et je parle pour nous aussi. Il nous arrive de souffrir parce que nous aimons quelqu'un, nous voulons le salut de cette personne-là, nous voulons son bien, et cette personne ne nous comprend pas. Elle nous méprise. C'est terrible, mais c'est ainsi. Alors désormais, ayant quitté l'Égypte, il passera 40 années au désert de Madian, durant lesquelles, il demeure là comme un humble berger, bien sûr éloigné de ses frères, et c'est dommage. Enfin, pendant les 40 dernières années de sa vie, il va être le conducteur du peuple d'Israël. Et tout au long de son voyage au travers du désert, il a su être à la hauteur parce qu'il savait sur qui il pouvait compter. Amen. C'est alors qu'il a eu affaire au peuple dont l'Écriture nous dit que c'est un peuple au cou, vous voyez, raide, et qui se détournait de l'Éternel, qui murmurait contre lui. Il a entendu les plaintes d'Israël avant même la traversée de la mer Rouge. Il a connu les murmures de Mara, la contestation de Massa et Meriba, les plaintes de Kadès, le découragement du peuple. Eh bien, va amener Dieu à lui envoyer quelque part une petite leçon. Les serpents brûlants. Donc, il a eu des tristesses. Elles ne sont pas toutes mentionnées, mais certainement que son âme a été affectée. Eh oui. Arrivé au terme de cette longue vie, marquée par tant d'épreuves et de souvenirs douloureux, alors que d'autre part, bien sûr, Dieu, dans son juste gouvernement, fait une chose que nous n'aurions pas imaginée, il lui ferme l'entrée de Canaan. Vous vous rendez compte ? Il aurait tellement aimé pénétrer en Canaan, mais Dieu lui ferme la porte. Moïse va prononcer justement aux oreilles de tout Israël les paroles d'un cantique. Paroles, bien sûr, qui nous sont rapportées dans ce chapitre 32 du livre de Deutéronome. Alors, que dit-il dès le début de ce cantique ? Au 32, verset 4, « Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Car toutes ses voies sont justice ou juste. C'est un Dieu fidèle. » Ça ne vous fait pas du bien d'entendre que celui dont Moïse nous dresse le portrait en nous montrant que c'est un Dieu qui est juste et fidèle est encore là, présent ce matin au milieu de nous. Qu'il vit en nous, dans nos cœurs, dans notre âme. Amen. Alors avant d'être retiré et enterré par l'Éternel vis-à-vis de Beth-Péor, il peut rendre témoignage de la fidélité de Dieu. Amen. Tout au long de ses 120 années, de son pèlerinage, de sa vie ici-bas, à travers tout ce qu'il a dû rencontrer, il n'a qu'une parole. Dieu a été fidèle. Il veut le faire savoir. Il veut pouvoir le communiquer aux autres. Ne t'inquiète pas, ne t'affole pas, reste tranquille, reste en paix. Dieu est là. Et c'est un Dieu fidèle. Et alors qu'il lui ferme l'entrée du pays de la promesse, pour lui, c'est encore un Dieu fidèle. Il va dire, il est le rocher, un roc inébranlable sur lequel, en tout temps, Moïse a pu s'appuyer. Il dit que son œuvre, elle est parfaite. Amen. Son œuvre pour nous, sans doute, mais aussi en nous. Alléluia. Parce qu'il veut nous rendre beaux, parfaits. Nous ne le sommes pas. Nous ne l'aurons pas. Il sait très bien de quoi nous sommes faits, nous savons nous aussi. Amen. Mais il veut quelque part nous former, nous façonner. Alléluia. Il veut achever son œuvre jusqu'au jour de Jésus-Christ, nous dit Philippiens 1:6. C'est un Dieu fidèle à ses promesses, à son caractère. Et il veut nous rendre semblables à lui. Il y a du travail ? Est-ce qu'il y a un peu de travail encore chez vous ? Eh bien sûr. Amen. Mais il va le faire. Un beau chantier à ciel ouvert. En passant du ciel ouvert, dans mon village, petit village de Mazan dans le Vaucluse, il y a le plus grand gisement de gypse d'Europe. Et quand vous regardez, parce que c'est à ciel ouvert, ça me fait penser à ça, vous voyez les scrapers au fond, là, les gros bulldozers, ils sont tout petits. Et vous, vous êtes en haut, vous regardez. Vous voyez comment nous voit le Seigneur ? Mais ce qu'il nous voit, c'est tel que nous sommes. Tout petit peut-être à nos yeux, mais lui veut nous voir grand. Alléluia. Il veut que le monde puisse nous voir. Nous sommes ses témoins ici-bas. Amen. Alors nous pouvons, considérant le chemin parcouru, répéter avec Moïse, c'est un Dieu fidèle. Seigneur, que tu es fidèle. Tu es magnifique. Vous lui dites de temps en temps, Seigneur, qu'est-ce que tu es beau ! Vous préférez le dire à votre femme, hein, à votre épouse, ou femme à votre mari, hein, ou à vos enfants. Mais le Seigneur nous dépasse tous. Alléluia ! C'est lui le plus beau entre 10 000. Amen. Alors il a été fidèle, il le sera jusqu'à la fin. Et combien il est précieux, mais plus encore de le savoir, c'est de l'expérimenter, de le vivre. Amen. C'est un Dieu fidèle. Il faut que tu l'expérimentes jour après jour. Tu peux vivre tout simplement sur le regard du Seigneur en réalisant que sans lui, tu n'y arriveras pas. Mais puisqu'il est là, allez, sois encouragé, avance, mets un pas devant l'autre. Le Seigneur saura te montrer eh bien, qu'il est capable. Alléluia. Alors il est également par l'assurance que nous donnent les Écritures. Et c'est, je dirais, sans aucun doute, eh bien, le plus solide point d'appui de la foi. Il est fidèle. Je le lis, je l'entends, j'écoute des témoignages et je vois, je considère eh bien, combien Dieu a été fidèle. Je lis eh bien, la biographie de ces hommes de Dieu et je réalise là aussi que si Dieu n'avait pas été de la partie, ils n'auraient pas tout accompli ce qu'ils ont fait. Mais Dieu a été fidèle. Et pourquoi il ne serait pas fidèle envers moi? Bien sûr, moi, il faut que je demeure fidèle aussi. Hein, c'est réciproque. Amen. Mais il est fidèle. Et ça, c'est quelque chose d'immuable. J'aimerais rappeler quelques passages du Nouveau Testament qui nous disent la fidélité de notre Seigneur. Puissions-nous y trouver, je dirais, à la fois eh bien, l'édification, l'exhortation et peut-être même la consolation. Parce que quelqu'un peut dire, « Seigneur, il ne me voit pas, il ne sait pas ce que je vis. Détrompe-toi. » Il voit tout. Il sait tout. Amen. Et ce qui est bien, c'est que lui, il sait, mais également, il a la puissance d'agir. Il a le pouvoir. C'est Paul qui dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, « Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur est fidèle. » On n'est plus du temps de Moïse, on est du temps de Paul, l'Église. Nous sommes dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église qui est à Corinthe, comme aussi bien sûr à tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur et le nôtre. Et quand il devait parler à cette église, il savait qu'il y avait bien des choses qu'il laissait à désirer. Corinthe, l'église de Corinthe. Et pourtant, nous pouvons considérer en lisant l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5 à 7, vous lirez chez vous, mais Dieu a enrichi cette église. Il a enrichi ses croyants alors qu'ils étaient loin d'être parfaits. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Il est tellement enrichi que le texte nous dit de sorte qu'il ne leur manquait aucun don. Mais oui, quelle bonté de Dieu. C'est malgré leur infidélité qu'il va le faire. Mais lui, il a fait des promesses, il les tient. Amen. Amen. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Mais Dieu nous a fait des promesses. Et il va veiller à les accomplir. Nous mériterions, je dirais, plus d'une fois d'être mis de côté à cause, ne serait-ce que, je veux dire, de notre inconstance, de notre manque de fidélité, peut-être même de mauvais témoignages que nous pouvons apporter aux autres, oui. Cependant, nous sommes non seulement supportés, mais aussi comblés, et comblés, je dirais, de tellement de bienfaits, de tellement de bénédictions, que souvent nous ne sommes pas capables de les comprendre. De les voir. Eh oui. Alors, si nous réalisons combien Dieu est fidèle à sa parole, quelque part, ça doit nous pousser, nous donner envie, elle nous pousser à exercer notre responsabilité. Il y a là notre vocation. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. C'est notre appel. Puis, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons. La Bible nous dit qu'il va revenir. Il va revenir en gloire. Ça va être le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Vous y pensez quelquefois? Ben, il y a bien des choses qui se précipitent. Hein? Eh oui, eh oui. Alors, dans ce jour-là, Jésus sera glorifié dans ses saints, admiré de tous ceux qui auront cru, qui auront tenu le choc, qui auront cru en la fidélité de Dieu, qui auront continué à avancer, à travailler, à œuvrer, tout simplement pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, en attendant ce jour-là, pensons à notre marche ici-bas. Pensons-y. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire à avoir une même part avec lui dans la marche, dans le service, dans la souffrance et l'opprobre, dans la prière, mais aussi dans la louange, dans l'adoration. Amen. Tout ça, c'est des services que nous devons au Seigneur. Eh oui. Il est fidèle. Il opérera en nous pour produire justement les résultats qu'il désire. Seigneur, je ne suis pas capable. C'est bien, parce que moi, je vais te rendre capable. Amen. Eh oui, c'est important. Donc, ce matin, j'aimerais vous dire, ne soyez pas découragés. En regardant à vous-même, à vos faiblesses, à vos manquements, même s'ils sont nombreux, que cela vous humilie. Il le faut finalement, hein, même profondément. Vous savez, comme je dis souvent, quelquefois, il nous faut toucher le fond pour pouvoir rebondir. Tant qu'on reste entre deux eaux, c'est difficile. Mais quand on touche le fond, là, allez, on prend appui, hop, on rebondit, on remonte. Donc oui, humilions-nous, réalisons que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous avons besoin de nous humilier devant lui. Mais aussi, parce qu'il ne faut pas en rester à l'humiliation, que cela nous pousse à aller vers celui qui veut travailler en nous et qui est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et que rien en nous n'entrave l'accomplissement de son travail en nous. Il nous veut beau, magnifique. Alléluia. Eh oui. Comme dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Qui, jusqu'à ce jour, a été exempt d'épreuves ? Levez la main. Bon, ça va, on est pareil. Hein, on est au même niveau. Hein, ben oui, eh oui. Que des preuves. Eh oui. Dans nos vies individuelles, mais aussi dans la vie de l'Assemblée. Parce qu'au plus on est, au plus on multiplie les épreuves. Eh oui. Alors, ça peut nous paraître au-delà de nos forces. Eh oui. Impossible à surmonter. J'y arriverai pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Dieu nous assure qu'aucune d'elles ne dépasse ce que nous pouvons supporter. Vous réalisez? Pour vous, c'est la catastrophe. Pour Dieu, ce n'est pas grand-chose. Pour vous, c'est une montagne. C'est l'Himalaya. Vous dites non, c'est une petite colline. Mais il faut que tu comptes sur moi. Il faut peut-être que tu t'humilies, que tu me demandes pardon. Mais après, tu peux pouvoir avancer. Parce que moi, je vais être avec toi et t'aider, te secourir. Amen. Elle n'en est pas une qui ne soit une tentation humaine, dit l'Écriture. C'est-à-dire à la mesure de la capacité humaine. Et oui, Dieu sait bien de quoi nous sommes formés. Il nous connaît. Et oui. Il se souvient que nous sommes poussière. Pardi, c'est lui qui nous a créés. Des fois, on veut tout expliquer au Seigneur. Ouais, il nous connaît. Soyons brefs. Vrai. Pas demi-mesure. Vrai, entier. Humilions-nous et puis avançons. Amen. C'est fait. La Bible nous dit qu'il nous pardonne. Vous croyez au pardon de Dieu pour vous? Et pour les autres? Lui, oh, c'est pas possible. Il ne pourra pas. Mais si! Dieu pardonne quand il voit la sincérité, la vérité dans le cœur d'un homme qui pleure sur sa misère, qui soupire après quelque chose de nouveau mais qui n'y arrive pas. Eh bien, le Seigneur lui va travailler. Alléluia. Il va faire le miracle. Amen. Comme dit le texte, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Alors prenons courage dans nos tribulations. Elles ne dépasseront jamais ce que Dieu, dans sa sagesse, c'est pouvoir nous dispenser, parce qu'il permet l'épreuve. On entend quelquefois ça. « Oh, Dieu ne permettra pas hein !» Tu rigoles, hein ? Eh bien, si. Mais tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Dieu va travailler. Ça va servir au perfectionnement de ta vie, de ton être, bien sûr. Hein. Alors, quand je dis qu'il est fidèle à cet égard, c'est afin que nous n'ayons aucune crainte. Mais encore, comme il est dit, avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter, surtout que nous puissions sortir vainqueurs. Alléluia. Le chemin est parfois très difficile. Nous ne nous voyons pas comment nous serons délivrés. Il semble n'y avoir aucune issue possible devant nous. Mais c'est oublier que Dieu est fidèle. Si vous regardez à vous, à vos capacités, à vos forces, à votre jojote, vous n'allez pas loin. Vous n'allez pas loin. Mais si vous regardez un peu plus haut, vous savez, les épreuves nous amènent à considérer tout ce qui est en bas. C'est pas vrai, ça nous courbe en plus. Mais si on sait lever la tête, lever les yeux un peu plus haut, on s'aperçoit que Dieu est là. Et quand on prend conscience de cela, eh bien, on le voit agir parce qu'on le lui permet. Il envoie l'épreuve, il prépare en même temps le secours, l'entière délivrance. C'est pas encourageant tout ça pour la foi ? Eh oui, eh oui. Paul dit que le Dieu de paix lui-même nous sanctifie entièrement. Que notre esprit, notre âme, notre corps tout entier soit conservé sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous appelle est fidèle. Heureusement, hein, c'est lui qui le fera. Et vous voulez douter de lui ? Voulez-vous passer de son secours, de son bras, de sa main, de sa capacité d'action ? Non ! Ne faites pas ça, ne faites pas l'économie de Dieu, au contraire. Amen. Être entièrement sanctifié, esprit, âme et corps, tout entier. Être conservé sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui peut nous sembler impossible quand nous considérons justement ce que nous sommes, quand nous voyons tous nos manquements. Et pourtant, nous venons de le lire. Nous venons de le lire. Et pourtant, Dieu le fera. Pourquoi ? Pas pour nos beaux yeux. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Vous comprenez ? Il ne peut pas se renier. Il est fidèle à sa parole. Et puis, il veut être glorifié dans ma vie. Amen. Il veut être glorifié dans ta vie. Et c'est là que nous voyons que malgré ce que nous sommes, malgré tout ce que nous pouvons manifester de volonté ou d'indifférence, il le fera. C'est impressionnant! Il le fera. Et comme le dit Paul, celui qui nous a appelés, il est fidèle. Il est fidèle à lui-même, fidèle à sa propre gloire. Et cette fidélité, il la manifestera jusqu'au bout, dans ce travail qu'il opère en nous, qu'il effectue en nous. C'est le travail de sanctification, pratique, parce qu'il veut l'accomplir pour tout ce qui lui appartient. Nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Nous portons le nom de son fils, Jésus. Nous sommes des petits chrétiens. Amen, des petits Christ. Alléluia. Je vais arrêter avec petit parce que ma femme me dit, mais tu arrêtes avec petit. L'œuvre du Seigneur, elle est grande. Elle est immense. Elle est glorieuse. Alléluia. Alors, ayons donc confiance, malgré tout. Malgré notre extrême faiblesse, malgré tout ce qui pourrait nous décourager sur le chemin, le Dieu de paix lui-même nous sanctifiera entièrement. Il est fidèle, il le fera. Paul disait aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1er, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Paul, l'apôtre Paul, il était en butte à des hommes méchants et pervers. Et nous pouvons nous aussi rencontrer de l'opposition de la part d'hommes qui cherchent par mille moyens à entraver l'œuvre de Dieu. Et nous serions tentés d'oublier justement que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et oui, sachons pour cela lever les yeux plus haut. Regardez, tout simplement, nous rappelant également que le Seigneur est fidèle, qu'il veut d'une part nous affermir, d'autre part nous garder du méchant. Amen. Mais il faut rester dans sa bonne main. Si je veux voler de mes propres ailes, je risque de me les brûler, ces ailes. Mais si je reste dans la bonne main du Seigneur, je suis gardé. Il est un bouclier. Amen. Il sera me protégé par le haut, sur les côtés, derrière, devant, dessous. Amen. David était au milieu de lions, parmi ceux qui avaient préparé un filet pour ses pas, creusé devant lui une fosse. Mais il peut rajouter, ils sont tombés dedans. Alléluia, on lui voulait du mal. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un passe des temps difficiles en ce moment parce qu'on lui veut du mal. Mon frère, ma sœur, tranquillise-toi. Le Seigneur est là. Le Dieu fidèle est là. Amen. Ils ont creusé une fosse devant toi. T'inquiète pas. Ils vont y tomber. Mais toi, tu seras gardé. Amen. Parce que David a fait l'expérience de la fidélité, justement, de celui duquel l'apôtre Paul assurait aux Thessaloniciens qu'il les affermirait. Et David déclare ensuite, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. » Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Et vous voyez, David a été affermi. Il a été gardé du méchant. Il a éprouvé la fidélité du Seigneur. Amen. C'est Paul qui dit que si nous sommes infidèles, ça peut arriver, malheureusement, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La nouvelle Bible seconde traduit « si nous manquons de foi ». Autrement dit, si nous sommes incrédules. Eh oui, ce qui revient à dire que notre infidélité est généralement due à notre incrédulité. Manque de foi. Eh oui. Alors, je pense que nous sommes tous à ce niveau-là. Nous croyons ce que dit l'Écriture au sujet du salut. Et nous sommes venus nous réfugier sous ses ailes pour cela. Amen. Mais nous avons peut-être du mal en ce qui concerne notre marche ici-bas de réaliser là aussi la fidélité de Dieu. Eh bien, nous devons accepter ce que la parole nous enseigne et surtout la vivre, c'est-à-dire la mettre en pratique et la vivre. Et là, je dis heureusement que Dieu n'agit pas envers nous comme nous agissons quelquefois envers lui. Et si nous sommes incrédules ou infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Il ne peut agir qu'en accord avec son propre caractère, selon l'essence même de son être. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est justice. Dieu est fidélité. Amen. Et c'est un tel Dieu qui intervient, qui opère, qui veut s'occuper de nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alléluia. Il demeurera fidèle en toutes choses. Ça, c'est notre assurance. Et c'est notre paix. Devant ce que nous voyons, ce que nous entendons. La Bible nous a parlé de ces derniers temps, les temps de la fin. Hein? Eh oui, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura des bouleversements météorologiques. Le pervers deviendra encore plus pervers. Eh oui, etc., etc., etc. Mais il nous dit, voilà, ne t'inquiète pas, je suis là. Amen. J'agirai pour toi. Je saurai te garder. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit de Jésus qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du monde. Alors nous sommes portés sur les épaules, nous sommes portés sur le cœur du Seigneur, et de celui qui a laissé sa vie pour nous, parce que Jésus a sacrifié sa vie pour que nous, nous soyons sauvés, et qui est maintenant notre souverain sacrificateur, un souverain sacrificateur qui est miséricordieux et fidèle. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire ce matin, mais la réalité, elle est là. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle dans l'exercice de cette souveraine sacrificature. Il ne peut manquer à ses devoirs. Alléluia. Dieu lui-même l'a établi dans cet office. Il est fidèle à celui qu'il a établi. Hébreux 3, 2. De même qu'il a été ici-bas le témoin fidèle, il est maintenant le souverain sacrificateur fidèle. Je dis fidèle à Dieu qu'il a établi. Fidèle et miséricordieux envers nous. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus est incontournable dans le salut. Amen. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire qu'il intercède, qu'il prie pour nous. Il se met en mal pour nous. Il se met en peine pour nous. Ce n'est pas extraordinaire. C'est pour cela qu'il a dû être rendu semblable à ses frères. Qu'il a souffert lui-même étant tenté. Bien sûr, il n'a pas succombé. Et il est ainsi à même de secourir ceux qui sont tentés. Amen. Ne vous découragez pas. La tentation, c'est quelque chose d'humain. Mettons le spirituel devant. Mettons le Seigneur devant. Et la tentation, bien, va se calmer. Hein? Amen. Faites le pour ou le contre. Le paradis ou l'enfer? Ça peut être fort, mais c'est ça. Le réconfort de Dieu ou alors l'ignorance. Laissez pour compte. Parce que Dieu ne peut pas, lui, se fourvoir dans le péché. Si je me retire du péché en m'humiliant, en reconnaissant que ce que j'ai accompli n'est pas bien, le texte me le dit. Il me pardonne parce qu'il est fidèle et il est juste. Il le fera. Amen. Et je vais conclure en disant que c'est un repos pour nos cœurs. De savoir que Jésus, dans tout ce qui nous concerne, est prêt à nous secourir. Il le fera jusqu'au bout, jusqu'à l'achèvement. C'est un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle. Amen. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Oui, nous professons attendre Jésus. Et ça, c'est une conséquence de notre position. Je suis devenu enfant de Dieu. Je me suis repenti. Je me suis converti. Où est Jésus en ce moment? Ce n'est pas un piège. Où est-ce qu'il est, Jésus? Il est au milieu de nous, mais il est aussi bien plus haut. Hein, il est assis dans les lieux célestes. Eh bien, figurez-vous, je vous fais une confidence, figurez-vous, que nous y sommes nous aussi par la foi, puisqu'il est dit que nous sommes assis avec lui, ou en lui, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Alors je recommence. Il vient bientôt. Alléluia. Et là, il va nous introduire effectivement dans la maison du Père, là où il est allé nous préparer une place. Ça, c'est l'espérance qu'il nous faut entretenir. Amen. Sans chanceler. On sait que le cœur se décourage vite. L'attente, lorsqu'elle se prolonge quelque peu, nous use. Alors, il ne suffit pas de connaître une vérité, même de la maintenir fermement. La chose importante, c'est de la vivre. C'est pour la liberté que j'ai été affranchi. Libéré, si vous préférez. Eh bien, que je puisse vivre en liberté. Vive de la puissance de cette vérité. Il est fidèle. Amen. Eh bien, je vais avancer, je vais me fortifier, je vais compter sur lui, sur sa grâce, sur son amour, pour pouvoir continuer à avancer en vainqueur. Alléluia. On ferme nos yeux quelques instants. Merci pour ta parole. Notre Dieu, nous réalisons combien sans toi nous ne sommes pas grand-chose. Mais heureusement que tu as pris les devants, que tu es venu jusqu'à nous. Sous la forme de ton Fils. Aujourd'hui, tu es là au milieu de nous au travers de ton esprit. Et ce matin, tu passes dans les rangs, je le crois. Tu es venu pour fortifier, encourager. Tu es venu pour donner une espérance nouvelle peut-être à quelqu'un. Seigneur, merci de te glorifier, de te manifester maintenant. Faire en sorte que ta parole prenne vie à l'intérieur de nous-mêmes. À toi la gloire, notre Seigneur. Amen.